Le voyage sentimental de Stern, deuxième partie, chapitre 10, la porte de la remise à Calais. J'ai dit que je ne voulais pas sortir de la désobligeante, parce que je voyais le moine en conférence avec une dame qui venait d'arriver, et j'ai dit le vrai. Cependant, je n'ai pas dit tout le vrai. L'air, la figure de la dame me retenaient autant que lui. Je soupçonnais qu'il lui rendait compte de ce qui s'était passé entre nous. Cela m'humiliait. J'aurais souhaité que le moine eût été dans son couvent. Lorsque le cœur devance le jugement, il épargne au jugement bien des peines. Le mien m'assura qu'elle était d'une beauté d'ange. La beauté mérite qu'on y fasse attention. Mais un objet fait oublier l'autre. Je tirai le rideau de taffetas. J'écrivis ma préface. Et la dame et sa beauté s'évanouirent. Je ne songeais plus à elle. Mais l'impression qu'elle avait faite sur moi revint aussitôt que je la rencontrai dans la rue. L'air franc et en même temps réservé, avec lequel elle me donna le bras, me parut une preuve d'éducation et de bon sens. Je sentais, en la conduisant, je ne sais quelle douceur autour d'elle, qui répandait la tranquillité dans tous mes esprits. « Bon Dieu, me disais-je, avec quel plaisir on mènerait une pareille créature avec soi autour du monde ?» Je n'avais pas encore vu son visage. Mais qu'importe. Son portrait était achevé avant d'arriver à la remise. L'imagination m'avait peint toute sa tête. Et se plaisait à me faire croire qu'elle était aussi bien une déesse que si je l'eusse retirée du fond du Tibre. Ô magicienne, tu es séduite, et tu n'es toi-même qu'une friponne séduisante. Tu nous trompes 7 fois par jour avec tes images riantes. Cependant tu les fais avec tant de grâce. Ils sont si charmants. Tes peintures sont si brillantes qu'on a du regret de rompre avec toi. » Lorsque nous fûmes près de la porte de la remise, elle ôta sa main de devant son visage et se laissa voir. C'était une figure à peu près de 26 ans, une brune claire, piquante, sans rouge, sans poudre, et accommodée le plus simplement. À l'examiner en détail, ce n'était pas une beauté. Mais ses attraits, dans la situation d'esprit où je me trouvais, m'attachaient plus qu'une beauté éblouissante. Sa physionomie intéressait. Elle avait l'air d'une veuve qui avait surmonté les fortes impressions de la douleur et qui commençait à se réconcilier avec sa perte. Mais 1000 autres revers de la fortune avaient pu tracer les mêmes lignes sur son visage. J'aurais voulu savoir ses malheurs, et si le ton qui régnait dans les conversations du temps d'Eidras eût été à la mode en celui-ci. Je lui aurais dit: « Qu'avez-vous? Pourquoi cet air inquiet? Qu'est-ce qui vous chagrine? D'où vous vient ce trouble d'esprit ?» En un mot, je me sentis de la bienveillance pour elle, et je pris la résolution de lui faire ma cour d'une manière ou d'autre, enfin de lui offrir mes services. Voilà de quoi je fus tenté, et j'étais disposé à céder à mes tentations et à les satisfaire. Qu'on juge où cela pouvait me conduire. Nous étions seuls, elle avait sa main dans la mienne, et nous avions le visage tourné vers la remise, et beaucoup plus près de la porte que la nécessité ne l'exigeait. Chapitre 11. Tout se passe en conversation. « Belle dame, lui dis-je en élevant légèrement sa main, voici un de ces événements qu'amène la capricieuse fortune. Nous sommes probablement de différents coins du globe. Nous ne nous sommes jamais vus, et elle nous place d'abord ensemble d'une manière si cordiale que l'amitié en pourrait à peine faire autant après un mois de la liaison la plus intime. » Et votre réflexion sur ce point, monsieur, fait voir combien l'aventure vous a embarrassé. Je sentis tout mon idiotisme. À quel propos, en effet, parler des circonstances d'une situation où l'on se trouve quand telle est telle qu'on l'a souhaitée? Vous remerciez la fortune, continua-t-elle. Vous avez raison. Le cœur le savait, et le cœur était content. Il n'y avait qu'un philosophe anglais qui pût en avertir une cruelle afin de lui faire changer de manière de penser. En disant cela, elle dégagea sa main avec un coup d'œil qui me parut un commentaire suffisant sur le texte. Je l'avoue, j'éprouvais une peine qu'une cause, peut-être plus digne, ne m'aurait pas fait ressentir. La perte de sa main me mortifiait, et la manière dont je l'avais perdue ne portait point de baume sur la blessure. Je sentis alors, plus que je n'ai jamais fait de ma vie, le désagrément que cause une sotte infériorité. Mais de pareilles victoires ne donne qu'un triomphe momentané. Un cœur vraiment féminin n'en jouit pas longtemps. 5 ou 6 secondes changèrent la scène. Elle ne m'avait pas tout dit. Elle appuya sa main sur mon bras pour achever, et je me remis, sans savoir comment, dans ma première situation. J'attendais qu'elle me parlât. Elle n'avait rien à ajouter. Je donnai alors une autre tournure à la conversation. La morale et l'esprit de la sienne m'avaient fait voir que je n'avais pas bien saisi son caractère. Elle tourna son visage vers moi, et je m'aperçus que le feu qui l'avait coloré pendant qu'elle me parlait s'était évanoui. Ses muscles s'étaient relâchés, et je revis ce même air de peine qui m'avait d'abord intéressé en sa faveur. Qu'il était triste de voir cet esprit fin et délicat en proie à la douleur. Je la plaignis de toute mon âme. Ce que je vais dire va peut-être paraître ridicule à un cœur insensible, mais en vérité, j'aurais pu en ce moment la prendre et la serrer dans mes bras. Quoique dans la rue, sans en rougir. Mes doigts serraient les siens, et le battement de mes artères qui s'y faisait sentir lui apprit ce qui se passait en moi. Elle baissa les yeux. Un moment de silence s'ensuivit. Je craignis d'avoir fait dans cet intervalle quelque léger effort pour serrer davantage sa main, car j'éprouvais une sensation plus subtile dans la mienne. Ce n'est pas qu'elle voulut la retirer, non, mais la pensée aurait pu lui en venir, et je l'aurais infailliblement perdue une seconde fois si l'instinct, plus que la raison, ne m'eût suggéré fort à propos une dernière ressource dans ces sortes de périls. Je tins alors sa main si légèrement qu'il semblait que j'étais sur le point de lui rendre sa liberté de mon propre gré. C'est ainsi qu'elle me la laissa. Elle était encore dans la mienne lorsque je vis Monsieur Dessein qui revenait avec les clefs. Je tombai alors dans une inquiétude terrible. L'idée du moine me revint, et je craignais qu'il n'eût donné de moi de mauvaises impressions à la dame, en lui contant mon histoire. J'étais fort embarrassé de savoir comment je les effacerais. Chapitre 12. La tabatière à Calais. On ne parle pas si tôt d'un loup, dit-on, que... Il faut qu'il en soit de même quand on ne fait seulement qu'y penser. Et il faut apparemment aussi que ce proverbe s'applique à d'autres êtres qu'aux loups. Le bon vieillard de moine était effectivement à 4 pas de nous, lorsque je me rappelais ce qui s'était passé entre lui et moi. Il avançait d'un pas timide, dans la crainte, sans doute, de se rendre importun. Il approche enfin d'un air libre. Il avait la tabatière à la main, et il me la présenta, ouverte avec beaucoup de franchise. « Vous goûterez de mon tabac, lui dis-je, en tirant de ma poche une petite tabatière d'écaille que je mis dans sa main. « Il est excellent, dit-il. « Eh bien, lui dis-je, faites-moi donc la grâce de garder le tabac et la tabatière. Je vous prie, lorsque vous en prendrez une prise, de vous souvenir que c'est l'offrande de paix d'un homme qui vous a traité brusquement, mais qui ne vous voulait point de mal. » Le pauvre moine devint rouge comme de l'écarlate. « Mon Dieu, dit-il, en serrant ses mains l'une contre l'autre, Vous n'avez jamais été brusque à mon égard. Oh, pour cela, dit la dame, je crois qu'il en est incapable. Je rougis à mon tour. Et quelle en fut la cause? Je le laisse à deviner à ceux qui ont du sentiment. Pardonnez-moi, madame, je l'ai traité rudement et sans sujet.
Cela est impossible, dit-elle.
Oui, s'écria le moine avec une vivacité qui lui paraissait étrangère. Ça a été ma faute et l'indiscrétion de mon zèle. La dame dit que cela ne pouvait pas être, et je m'unis à elle pour soutenir qu'il était impossible qu'un homme aussi honnête que lui pût offenser qui que ce soit. J'ignorais avant ce moment qu'une dispute pût causer une irritation aussi douce et aussi agréable dans toutes les parties sensitives de notre existence. Nous restâmes dans le silence, et nous y restâmes sans éprouver cette peine ridicule que l'on ressent pour l'ordinaire dans une compagnie où l'on s'entre-regarde 10 minutes sans dire mot. Le moine, pendant cet intervalle, frottait une tabatière de corne sur la manche de son froc. Dès qu'il lui eut donné un peu de lustre, il fit une profonde inclinaison et me dit qu'il ne savait pas si c'était la faiblesse ou la bonté de nos cœurs qui nous avait engagés dans cette contestation. Quoi qu'il en soit, monsieur, je vous prie de faire un échange de boîtes. Il me présenta la sienne d'un air gai, baisa la mienne, la mit dans son sein, et s'en alla sans rien dire. Ah! Je conserve sa boîte. Elle vient au secours de ma religion pour aider mon esprit à s'élever au-dessus des choses terrestres. Je la porte toujours sur moi. Elle me fait souvenir de la douceur et de la modération de celui qui la possédait, et je tâche de le prendre pour un modèle dans tous les embarras de ce monde. Il en avait essuyé beaucoup. Son histoire, qu'on m'a racontée depuis, était un tissu de peines et de désagréments. Il les avait supportés jusqu'à l'âge de 45 ans, mais alors accablé par le chagrin qu'il ressentit des ingratitudes qu'il essuya et par les revers qui lui était arrivé dans une tendre passion, il abandonna et le monde et le beau sexe, et se retira dans le sanctuaire, ou plutôt en lui-même. Je sens un poids sur mes esprits lorsque je songe qu'en repassant par Calais, on me dit que le professeur Laurent était mort depuis quelques mois. Il était enterré dans un petit cimetière à 2 lieues de la ville. Je voulus aller visiter son tombeau. Assis près de sa tombe, tirant de ma poche sa petite boîte de cornes et arrachant quelques orties qui n'avaient que faire de croître dans ce lieu sacré, toute cette scène frappa tellement mes sens que je versai un torrent de larmes. Quelle faiblesse! Eh oui! Je suis aussi faible qu'une femme. Je prie cependant mes lecteurs de me plaindre plutôt que de rire de ma tendresse pour le pasteur Laurent. Chapitre 13. Victoire. Je n'avais point encore lâché la main de la dame. Il eût même été peu décent, selon moi, de la lâcher sans la baiser. Et je m'y hasardais. Oh, ciel, quel étrange effet! Que la nature a de nuances délicates pour animer la beauté modeste. Les deux voyageurs qui m'avaient parlé dans la cour vinrent à passer dans ce moment critique et s'imaginèrent, pour le moins, que nous étions le mari et la femme. Le voyageur curieux s'approcha et nous demanda si nous partions pour Paris le lendemain matin. Je lui dis que je ne pouvais répondre que pour moi-même. La dame ajouta qu'elle allait à Amiens. Nous y dînâmes hier. Dit le voyageur simple.
Vous traverserez cette ville, me dit l'autre en allant à Paris.
J'allais lui faire 1000 remerciements de m'avoir appris qu'Amiens était sur la route, mais je tirai de ma poche la petite boîte de cornes de mon pauvre moine pour prendre une prise de tabac. Je les saluai d'un air tranquille et leur souhaitai un bon passage à Douvres. Ils nous laissèrent seuls. Même dis-je à moi-même, quel mal y aurait-il que j'offrisse à cette dame affligée la moitié de ma chaise. Quel grand malheur pourrait-il s'en suivre? Quel malheur! S'écrièrent en foule toutes les passions basses qui se réveillèrent en moi. Ne voyez-vous pas, disait l'avarice, que cela vous obligera de prendre un troisième cheval, et qu'il vous en coûtera 20 francs de plus? Vous ne savez pas qui elle est, disait la précaution, ni les embarras que cette affaire peut vous causer, disait la lâcheté à mon oreille. Vous pouvez compter, Yorick, ajoutait la discrétion, que l'on dira que c'est votre maîtresse et que Calais a été le lieu de votre rendez-vous. Comment pourrez-vous, après cela, s'écria l'hypocrisie, montrer votre visage en public? Et vous élever, disait la pusillanimité, dans l'église, au-delà d'un simple canonicat, ajoutait l'orgueil. Mais, répondais-je à tout cela, c'est une honnêteté. Je n'agis guère que par ma première impression, et j'écoute surtout fort peu les raisonnements qui contribuent à endurcir le cœur. Je me retournai précipitamment vers la dame. Elle n'était déjà plus là. Elle était partie, sans que je m'en aperçusse, pendant que cette cause se plaidait. Et avant que je l'eusse gagnée, elle avait déjà fait 12 ou 15 pas dans la rue. Je courus à elle pour lui faire ma proposition le mieux qu'il me serait possible, mais elle marchait la joue appuyée sur sa main, les yeux fixés en terre, et du pas lent et mesuré d'une personne qui pense. J'en fus frappé, et je m'arrêtai. Elle se fait apparemment le même procès que je me suis fait, me dis-je, que le ciel vienne à son secours. Elle a probablement quelque marâtre entiché de pruderie, quelque tante hypocrite, quelque vieille femme ignorante à consulter sur ce pas glissant. Et elle s'avise comme je me suis avisé. Gardons-nous, me dis-je, de l'interrompre et de la prendre par surprise. Je me retournai doucement en arrière et fis 2 ou 3 tours devant la porte de la remise. Chapitre 14. Découverte. La première fois que je l'avais vue, l'imagination m'avait prêté ses yeux. Je l'avais trouvée charmante. L'imagination inspire aussi de la confiance, et je crois facilement qu'elle était au rang des êtres les plus aimables. Je me figurais ensuite qu'elle était veuve et dans l'affliction, et je m'arrêtai à toutes ces idées. Cette situation me plaisait. Elle serait restée avec moi jusqu'à minuit, que je m'en serais tenu à ce système. C'est ainsi que je l'aurais toujours considéré. Mais le moment, peut-être, de nous séparer n'était pas éloigné, et elle n'avait pas fait 20 pas que je désirais de savoir plus de particularités. L'idée d'une plus grande séparation vint me saisir et m'alarmer. Il pouvait se faire que je ne la reverrais plus. Le cœur veut épargner autant qu'il peut, et dans ce malheur, je voulais au moins des traces sur lesquelles mes souhaits pourraient la rejoindre, si je ne la voyais plus moi-même. En un mot, je voulais savoir son nom, le nom de sa famille, son état. Je savais l'endroit où elle allait. Je voulais savoir encore d'où elle venait. Mais comment parvenir à toutes ces connaissances? Sans petite délicatesse s'y opposait. Je formais 20 plans différents. Je ne pouvais pas lui faire des questions directes. La chose, du moins, me paraissait impossible. Un petit officier français, de fort bon air, qui venait en dansant au bruit d'une ariette qu'il fredonnait, me fit voir que ce qui me semblait si difficile était la chose du monde la plus aisée. Il se trouva entre la dame et moi au moment qu'elle revenait à la porte de leur amuse. Il m'aborda, et à peine m'avait-il parlé qu'il me pria de lui faire l'honneur de le présenter à la dame. Je n'avais pas été présenté moi-même. Il se présenta sans moi. « Vous venez de Paris, apparemment, lui dit-il. Madame, non, mais je vais, dit-elle, prendre cette route. Vous n'êtes pas de Londres ? » Elle répondit que non. « Ah, madame vient de Flandre. Apparemment, vous êtes flamande. » La dame répondit oui. « De Lille, peut-être ? Non. Ni d'Arras ? Ni de Cambrai ?
ni de Gand, ni de Valenciennes, ni de Bruxelles. La dame dit qu'elle était de Bruxelles.
Oh ! J'ai eu l'honneur d'assister au bombardement de cette ville. Il y faisait chaud. Il faut l'avouer, cette place était admirablement bien située pour cela. Je m'en souviens, elle était remplie de noblesse, quand les impériaux en furent chassés par les Français. La dame lui fit une légère inclinaison de la tête. Il lui raconta la part qu'il avait eue au succès de cette affaire, la pria de lui faire l'honneur de lui dire son nom.
« Et madame, sans doute, à son mari, » dit-il en regardant par-dessus son épaule et faisant deux pas en arrière. « Je vous joins, » s'écria-t-il. Et sans attendre de réponse, il s'en alla, en sautant, joindre ses camarades. Je le considérais avec des yeux attentifs. Apparemment, me dis-je d'un ton de reproche, que je n'ai pas assez médité les importantes leçons de la civilité qu'on a mises dans les mains de mon enfance, car je n'en pourrais pas faire autant. Chapitre 15. Un autre en profiterait. Monsieur Dessin s'était arrêté à causer à quelque distance, et il arriva avec la clé de la remise à la main, et nous ouvrit les grands battants de son magasin de chaises. Le premier objet qui me donna dans l'œil fut une autre guenille de désobligeante, le vrai portrait de celle qui m'avait plu une heure auparavant, mais qui depuis avait excité en moi une sensation si désagréable. Il me semblait qu'il n'y avait qu'un rustre, un homme insociable qui eût pu imaginer une telle machine, et je pensais à peu près de même de ceux qui s'en servaient. J'observais qu'elle causait autant de répugnance à la dame qu'à moi. Monsieur Dessin s'en aperçut, et il nous mena vers deux chaises qui devinrent tout de suite l'objet de ses éloges. « Mylord B., dit-il, les avait achetées pour faire un grand tour, mais elles n'ont pas été plus loin que Paris. Cela vaut du neuf. Monsieur Dessin, elles sont trop bonnes. » Et je passai à une autre qui était dernière et qui me parut me convenir. J'entrai sur le champ en négociation du prix. Cependant, dis-je, en ouvrant la portière et en montant dedans, il me semble qu'on aurait bien de la peine à y tenir deux. « Ayez la bonté, madame, » dit M. Dessin, en lui offrant son bras, d'y monter aussi. La dame hésita une demi-seconde, et s'y plaça. Et M. Dessin, à qui un domestique faisait signe qu'il voulait lui parler, ferma par inadvertance, sans doute, la portière sur nous, et nous laissa. Chapitre 16. Aveu.
« Voilà qui est plaisant, » dit la dame en souriant. « C'est la seconde fois que, par des hasards fort indifférents, on nous laisse ensemble. Cela est comique. »
Il ne manque du moins, pour le rendre tel, lui dis-je, que l'usage comique de la galanterie française voudrait faire de cette aventure. Faire l'amour dans le premier moment. Offrir sa personne au second.
C'est là leur fort, répondit la dame.
On le suppose au moins, et je ne sais trop comment cela arrive.
Mais ils ont acquis la réputation de mieux faire l'amour que tous les autres hommes.
Reste à savoir s'ils ont plus d'aptitude à saisir le moment favorable. Pour moi, je les crois très maladroits, et qu'ils exercent plus que d'autres la patience de Cupidon.
Quoi, vous croiriez qu'ils le songent à faire l'amour par sentiment?
C'est comme si je prétendais qu'on pourrait faire un bel habit avec des morceaux de reste et de toute couleur, ou qu'on peut faire réellement l'amour tout d'un coup, et à la première rencontre, en disant seulement qu'on le fait.
Ils ne font tout au plus que proposer, et la chose est eux-mêmes, avec le pour et le contre, à l'examen d'un esprit solide et qui n'est point animé.
La dame m'écoutait comme si elle s'attendait à quelque chose de plus.
« Considérez donc, madame, lui dis-je, en posant ma main sur la sienne. »
Que des personnes graves détestent l'amour à cause du nom. Les intéressés le haïssent parce qu'elles donnent la préférence à autre chose.
Les hypocrites paraissent la voir en horreur, en feignant de n'aspirer qu'aux choses célestes. Le vrai de tout cela, c'est que nous sommes beaucoup plus effrayés que blessés par cette passion. Un homme qui ne prononcerait le mot d'amour qu'après une heure ou deux de silence paraîtrait tout à fait extraordinaire. Ah, quel homme ! Qu'il est gauche, cependant admirez ma simplicité. Il me semble qu'une suite de petites attentions tranquilles, qui se montreraient de façon à ne pas alarmer, et ne seraient pourtant pas assez vagues pour être méprisées, un tendre regard de temps en temps, mais peu, ou même point du tout, de discours à ce sujet, il me semble, oui, la nature s'en mêlerait et façonnerait tout cela comme elle l'entend. Eh bien, dit la dame en rougissant, je crois que vous n'avez point cessé de me faire l'amour depuis que nous sommes ensemble. Chapitre 17. Le malheur et le bonheur. Le retour de M. Dessin marqua le malheur. Il ouvrit la portière et dit à la dame que M. le comte de L., son frère, venait d'arriver. Je souhaitais certainement tout le bien possible à la belle, mais j'avouerai que cet événement attrista mon cœur. Je ne lui cachais pas la peine qu'il me faisait. En vérité, madame, il est fatal à une proposition que j'allais vous faire. Il est inutile, dit-elle en m'interrompant et en mettant une de ses mains sur les deux miennes, de m'expliquer votre projet. Il est rare, mon bon monsieur, qu'un homme ait quelque proposition à faire à une femme sans qu'elle en ait le pressentiment. Oui, la nature, dis-je, l'arme de ce pressentiment pour la garantir du piège. Mais, dit-elle en me fixant, est-ce que j'aurais eu quelque chose à craindre? Je ne puis le croire, et vous parlez franchement. J'étais déterminé à accepter votre proposition, si vous me l'eussiez faite. Elle se tut un moment. Je suis persuadé, reprit-elle, que vous m'auriez disposé à vous raconter une histoire qui, de tout ce qui aurait pu nous arriver dans le voyage, aurait rendu la compassion la chose la plus dangereuse. En me disant cela, elle me tendit la main. Je la baisai deux fois, et elle descendit de la chaise en me disant adieu, avec un regard mêlé de sensibilité et de douceur. Chapitre 18. La manière de voir. Elle ne m'eut pas sitôt quitté que je commençais à m'ennuyer. Je sentis que le moment était plus long, et je n'ai peut-être jamais fait un marché de 12 guinées aussi promptement dans toute ma vie que celui de ma chaise. Je donnai ordre qu'on m'amenât des chevaux de poste, et je dirigeai mes pas vers l'hôtellerie. Ciel, dis-je en entendant 5 heures sonner, et en faisant réflexion qu'il n'y avait que 2 heures que j'étais à Calais. Quel volume d'aventure cet instant si court ne pourrait-il pas produire? Quel sujet pour un homme qui s'intéresse à tout et ne laisse rien échapper de ce que le temps et le hasard lui présentent continuellement. Je ne sais si cet ouvrage aura jamais quelque utilité. Peut-être qu'un autre réussira mieux, mais qu'importe. C'est un essai que je fais sur la nature humaine. Il ne me coûte que mon travail. Cette expérience me fait plaisir. Elle anime la circulation de mon sang, dissipe les humeurs sombres, éclaire mon jugement et ma raison. C'est assez. Je suis trop payé. Je plains l'homme qui, voyageant de Dan à Beersheba, peut s'écrier « Tout est triste ». Oui, sans doute, le monde entier est stérile pour ceux qui ne veulent pas cultiver les fruits qu'il présente. Mais me disais-je à moi-même en frottant gaiement mes mains l'une contre l'autre, je serai au milieu d'un désert que je trouverai de quoi m'affecter. Un doux myrte, un triste cyprès m'attirerait sous leurs feuilles. Je les bénirai de l'ombrage bienfaisant qu'ils m'offriraient. Je graverai mon nom sur leur écorce. Je leur dirai, vous êtes les arbres les plus agréables de tout le désert. Je gémirai avec eux en voyant leurs feuilles desséchées tomber, et ma joie se mêlerait à la leur. quand le retour de la belle saison les couronnerait d'une riante verdure. Le savant Smelfungus voyagea de Boulogne à Paris, de Paris à Rome, et ainsi de suite. Le savant Smelfungus avait la jaunisse. Accablé d'une humeur sombre, tous les objets qui se présentèrent à ses yeux lui parurent décolorés et défigurés. Il nous a donné la relation de ses voyages. Ce n'est qu'un triste détail de ses pitoyables sensations. Je rencontrai Smelfungus sous le grand portique du Panthéon. Il en sortait. « Eh bien, que dites-vous de ce superbe édifice ?» lui dis-je. « Moi, ce n'est qu'un vaste cirque pour un combat de coq. Je voudrais, lui dis-je, que vous n'eussiez rien dit de pis de la Vénus de Médicis. J'avais appris en passant à Florence qu'il avait fort mal traité la déesse, parce qu'il la regardait comme la beauté la plus prostituée du pays. Smelfungus revenait de ses voyages, et je le rencontrai encore à Turin. Il n'eut que de tristes aventures sur la terre et sur l'onde à me raconter. Il n'avait vu que des gens qui s'entremangent comme les anthropophages. Il avait été écorché vif et plus maltraité que Saint Barthélemy dans toutes les auberges où il était entré. « Oh, je veux le publier dans tout l'univers !» s'écria-t-il. « Vous ferez mieux, lui dis-je, d'aller voir votre médecin. » Munungus, homme dont les richesses étaient immenses, se dit un jour, « Allons, faisons le grand tour. » Il va de Rome à Naples, de Naples à Venise, de Venise à Vienne, à Dresde à Berlin. Et Munungus, à son retour, n'avait pas retenu une seule anecdote agréable. Il ne disait pas une seule chose qui eût du bon sens et de la liaison. Il avait parcouru les grandes routes sans jeter les yeux ni d'un côté ni de l'autre, de crainte que l'amour ou la compassion ne le détournât de son chemin. Que la paix soit avec eux, s'ils peuvent la trouver. Mais le ciel, s'il était possible d'y atteindre avec de pareilles humeurs, n'aurait point d'objet qui pussent fixer et amollir la dureté de leur cœur. Les doux esprits sur les ailes de l'amour viendraient se réjouir de leur arrivée. Ils n'entendraient autre chose que des cantiques de joie, des extases de ravissement et de bonheur. Ô mes chers lecteurs, les âmes de Smelfungus et de Munungus, je les plains. Elles n'ont point apporté de sensibilité. Les douces sensations ne les affectent jamais. Smelfungus, Munungus, seraient placés dans la demeure la plus heureuse du ciel. Les âmes de Smelfungus et de Munungus s'y croiraient malheureuses et gémiraient pendant toute l'éternité.